Bienvenue dans 100 ans de cinéma et des poussières sur Prune. Tout de suite, retrouvez Alexis et son invité pour une heure de discussion autour d'une thématique de cinéma.
Et oui, de retour dans l'émission 100 ans de cinéma, 100 ans de cinéma et des poussières, hein, puisque le cinéma a un petit peu plus que 100 ans tout de même. Et de retour également dans les studios de Radio Campus Paris qui nous hébergent pour une nouvelle fois, donc pour pouvoir enregistrer cette émission en avance avec notre invité que je vais présenter immédiatement. Donc le principe de 100 ans de cinéma, c'est toujours la même chose, une mensuelle donc sur la radio Prune à Nantes et une trimestrielle sur la Radio Campus Paris. Qui parle de cinéma en long et en large avec un ou une invitée donc, qui choisit une thématique de cinéma qui lui est chère et puis ensuite nous discutons pendant une heure de cette thématique. Donc c'est assez simple, mais voilà, on a toujours la chance d'avoir des super invités, c'est bien entendu le cas encore aujourd'hui puisque nous accueillons dans nos locaux Monsieur Serge Bromberg. Bonjour et merci beaucoup d'être là.
Bonjour Alexis.
Et merci alors vraiment beaucoup. Alors je vais vous présenter rapidement, mais aussi je commence par dire que pour des gens comme moi qui s'intéressent au cinéma et au cinéma de toute l'époque du cinéma, vous êtes un peu une sorte d'idole qui nous a montré comment on pouvait présenter des films du cinéma assez anciens, voire muets parfois, donc des films qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre quotidien, et de les rendre très attractifs, très intéressants. Et puis vous, en plus, pour toute une génération de gens comme moi, on vous a découvert à la télévision avec l'émission Cellulo sur la 5e, c'était à la moitié fin des années 90. Et pour reprendre l'expression d'un ami à moi qui se reconnaîtra, il sera très content, il vous a qualifié auprès de moi de Philippe Dana pour les intellos.
Philippe Dana pour les intellos.
Voilà.
Oh la vache, c'est dur. Je préférais Indiana Jones du cinéma perdu. Ça me faisait beaucoup plus rigoler.
Eh ben, c'est noté aussi. Enfin, la référence, voilà, c'était ça, c'est que vous présentiez effectivement cette émission avec des dessins
Philippe,
animés.
Hein.
Oh ben, on le salue et d'ailleurs on l'invite aussi. Je dis pas que c'est pour les que lui que Philippe Dana et le Serge Bromberg des bêtas. Hein. C'est pas tout à fait l'idée. Hein. Et donc vous êtes passionné par le cinéma ancien et depuis des années vous récupérez, vous restaurez et vous ressortez, pas tout seul mais avec toute une équipe, des films très anciens, voire souvent des films muets, et vous les remettez comme ça sur le projecteur. Et avec notamment la création en 1985, je crois, de la société Lobster Film, qui a bien pour but, justement, voilà, de remettre au goût du jour ce genre de film.
Absolument. Lobster est une équipe d'une trentaine de personnes qui, donc, depuis 35 ans, restaure des films et les fait revivre par tous les moyens, que ce soit la télé, le streaming, les DVD, les salles, les concerts quand ce sont des films muets, mais aussi des extraits, mais aussi des illustrations pour des clips, pour des documentaires. Bref, le cinéma comme tapis volant pour voyager dans le passé et dans l'imaginaire. C'est ça, en fait, notre plus. L'idée est que le cinéma n'a jamais été fait pour être ancien. Le cinéma muet est une notion qui est née avec le cinéma sonore. Avant, ça s'appelait juste le cinéma, puisqu'on ne savait pas que le cinéma pouvait parler. Et du coup, l'idée est de savourer tous les cinémas, pas seulement le muet, au quotidien, parce que ces films sont juste, pour certains d'entre eux, absolument inimaginables.
Ouais, tout à fait. Et puis en plus, donc depuis pas mal d'années aussi, vous proposez alors notamment donc des sorties vidéo, enfin DVD ou Blu-ray régulièrement, mais également des spectacles.
Oui, depuis 1990, on fait des spectacles à base de films anciens. Ça s'appelle Retour de Flamme, c'est une sorte de bannière générale. On est des habitués du Festival de La Rochelle, de l'Académie des Oscars à Hollywood, du Musée d'Art Moderne, etc. Mais je vais dans le monde entier, je fais pratiquement 5 ou 6 concerts par mois. J'ai même fait en Inde devant 15 000 personnes, je vous raconte pas, c'était incroyable. Passer des films muets occidentaux devant 15 000 Indiens à Calcutta, oui. C'est quelque chose qui, vous voyez, comme quoi le cinéma fait vraiment plus que voyager dans l'imaginaire.
Mais oui, d'autant que bon, le cinéma muet, par définition, était un petit peu plus universel que le cinéma dialogue.
Évidemment.
Et donc, il y a également donc, ces soirées Retour de Flamme. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup.
Il y en a encore énormément. Je crois que je sors d'une série de projections qui ont commencé au musée d'Orsay dans le cadre de Vivement le cinéma. Mais on a pas mal de projections un peu partout. Il y en a à Marseille, il y en a à Brest, il y en a à Grenoble, enfin il y en a un peu partout.
Oui, en tout cas, ça vaut vraiment, vraiment le coup d'aller les voir. Et puis, alors, pour ceux qui vraiment n'auraient pas encore entendu parler de vous, peut-être que ce pourquoi vous êtes le plus connu dans le milieu cinématographique, cinéphile en tout cas français, c'est pour ce documentaire. Alors, il y en a eu plusieurs, hein, mais il y a ce fameux documentaire sur l'enfer d'Henri-Georges Clouzot qui est sorti, c'était il y a quelques années, un peu moins de 10 ans, qui revenait donc sur ces bobines, ces essais de films tournés par Henri-Georges Clouzot, pour ce film qui ne s'est pas fait finalement, et qui a donné en revanche ce documentaire pour lequel vous avez été césarisé.
Voilà, alors ça fait rentrer dans la légende, c'est toujours très agréable, mais bon, il y a ce film-là qui justement devait être valorisé sous forme d'un long métrage parce que c'était des rushs et il fallait les contextualiser. Mais mon nom et le nom de Lobster sont relativement peu important. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons. Et donc, on est beaucoup plus connu à travers des restaurations où notre nom n'apparaît pas forcément, comme Les Demoiselles de Rochefort, comme Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, comme King Kong, comme Citizen Kane, comme on est en train de travailler sur La Règle du Jeu, de Jean Renoir, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Et si vous voulez, c'est une vie dédiée au cinéma. Je fais partie de la Cinémathèque française, je fais partie de la SACD, de la Fondation Beaumarchais. Je travaille même dans les archives militaires à l'ECPAD, qui est une archive très importante et tout à fait passionnante. Je trouve que j'ai eu l'honneur d'être nommé président de cette institution il y a quelques années. Donc vous voyez, c'est très 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 éclectique. Et j'ai même dirigé le Festival du film d'animation d'Annecy pendant une quinzaine d'années. C'est vous dire si justement... Mais voilà, en fait, il n'y a pas de grand, de petit cinéma. Il n'y a que le moment présent et le plaisir à partager.
Bien sûr, oui. Et donc, je pense que vous, chers auditeurs et auditrices, vous l'aurez compris, vous étiez l'invité tout vu pour 100 ans de cinéma. Encore une fois, merci d'être là. Pour alors parler d'une thématique un peu plus précise, c'est pas seulement tout le cinéma, une thématique qui nous est chère, qui est celle donc du cinéma et de la vie et de l'œuvre du grand Georges Méliès, que nous allons donc aborder aujourd'hui.
Absolument, et qui mériterait qu'on rebaptise l'émission non plus en 100 ans de cinéma et des poussières, mais 100 ans de cinéma et des cendres. Vous allez comprendre pourquoi.
Tout à fait. Et pour info, donc Georges Méliès, c'est un grand réalisateur que maintenant, je pense, le monde connaît. Mais il semblerait que toute la deuxième partie de sa carrière et même toute la deuxième partie de sa vie, il a fallu le faire redécouvrir à un public. Et c'est l'impression qu'on a encore aujourd'hui qu'il faut le faire tout le temps, redécouvrir un public nouveau.
Alors en fait, c'est pareil pour tout. Quand le temps passe et les gens oublient. Mais ça vaut pour absolument tout. Je veux dire, aujourd'hui, plus personne ne sait qui est Gérard Philippe ou qui est Louis Jouvet, alors que ça a été des stars incontournables. Beaucoup de gens disent, par exemple, Alice Guy, qui est la première femme réalisatrice de l'histoire du cinéma, qui a tourné de 1902 à peu près à la fin des années 10, début des années 20. Alice Guy, tout le monde dit, mais elle a été oubliée, si elle a été oubliée, c'est parce que c'était une femme. Ce qui est absurde, puisqu'en fait, elle est oubliée comme ont été oubliées Albert Capellani, Segundo Chomon, André Euzet et autres Jacques Feder, et encore Jacques Feder un petit peu moins parce qu'il est allé dans le sonore. Mais en gros, le temps passe et donc il faut faire revivre toutes ces personnalités dans ce qu'elles avaient de formidable. Et clairement, Georges Méliès est arrivé à un moment très particulier de l'histoire du cinéma, puisque héritier de la société de son père qui fabriquait des chaussures, il a très rapidement abandonné l'idée de reprendre la suite dans l'usine et il s'est spécialisé dans la magie. Il était parti en Angleterre faire un stage d'anglais et en fait il avait passé son temps dans les cercles de magie. Et quand il est revenu à Paris à la fin des années 80, il a racheté avec l'argent de l'usine, il a racheté un théâtre qui s'appelait le théâtre Robert Houdin, qui était boulevard des Italiens, et dans ce théâtre, il faisait des numéros de magie. Voilà, donc jusqu'ici, rien que de très banal, à part que c'était un très bon, très grand magicien, paraît-il. Sauf qu'un jour, Ça devait être le 28 décembre 1895. Vous voyez, ma montre est encore arrêtée sur cette date-là. Le 28 décembre 1895, il se promène devant le théâtre et il croise une personne qu'il connaît bien, qui s'appelle Louis Lumière. Et Louis Lumière dit à Georges Méliès, écoutez, monsieur Méliès, je vous propose de venir ce soir voir quelque chose au café indien, au salon indien du café de Paris, vous allez y découvrir quelque chose, vous n'allez pas en croire vos yeux. Et Méliès dit, bah, écoutez, ouais, bon, je viens, il y est allé. Et donc, c'est ainsi que Méliès s'est retrouvé présent lors de la première projection publique du cinématographe et qu'il a vu cette projection. Il a dit, mais c'est épatant, moi qui fais de la magie, avec le cinéma comme ça, je vais pouvoir, mais alors, en faire 10 fois plus. Tout ce que je ne peux pas faire sur scène, je vais le faire sur les films. Et il a commencé à tourner. Je fais des raccourcis, évidemment, puisque oui. Sa vie est riche de beaucoup d'anecdotes et de choses formidables. Et donc, de 1896 à 1912... début 1913, c'est un peu compliqué à dater. Donc pendant près de 20 ans, Méliès va installer à Montreuil, dans sa maison, dans le jardin d'abord, et puis dans un petit studio en verre ensuite, il va installer sa caméra, son plateau, et il va faire une sorte de théâtre filmé. Donc la caméra ne bouge pas, elle filme une scène de théâtre, donc ce qui donne un look extrêmement particulier au film de Georges Méliès. Et sur cette scène de théâtre, il va avoir des artistes complets, il va avoir des magiciens, il va y avoir des décors, il sait très bien dessiner. Donc il va dessiner plein d'effets spéciaux et de choses comme ça. Et Méliès va devenir le synonyme de film à effets spéciaux. On appelait ça à l'époque film à trucs. Et les gens veulent voir du Méliès, veulent voir des gens disparaître, veulent voir en fait tout ce que Méliès fait sur la scène du théâtre Robert Houdin. Mais évidemment, le théâtre Robert Houdin, faut être à Paris. Grâce au cinéma, les films peuvent voyager. Et rapidement, la réputation de Georges Méliès devient mondiale.
Tout à fait. Et on va aborder justement ça, ce succès de Georges Méliès à l'international après une courte page musicale. Et puis on retrouve tout de suite après notre invité Serge Bromberg pour 100 ans de cinéma consacré à Georges Méliès. À tout de suite.
Thank you.
La contre-attaque dans 100 ans de cinéma et des poussières.
Et de retour dans l'émission 100 ans de cinéma et des poussières consacrée bien entendu au cinéma avec notre invité Serge Bromberg et puis une émission consacrée plus spécifiquement bien entendu au grand Georges Méliès, à sa vie et à son œuvre. Alors vous évoquiez juste avant donc les tout débuts du cinéma lui-même avec Méliès qui était présent visiblement à cette première séance légendaire, première séance publique payante du cinéma puisque le paiement fait partie de la thérapie. Enfin, c'est comme... c'est donc le début du spectacle de cinéma, contrairement à ce que pouvait faire Edison dans son coin quelque part. Et Méliès aurait été présent donc à cette toute première séance.
Il était totalement présent à cette séance. Il n'y a aucune espèce de doute là-dessus.
D'accord.
Et en sortant de cette séance, Méliès va voir Louis Lumière et lui dit « J'aimerais bien acheter une de vos machines parce que passer ces films dans mes séances de magie, ce serait vraiment quelque chose d'exceptionnel. » Et Lumière lui dit non, il n'en est pas question. La légende dit qu'il lui aurait dit cette invention n'a pas d'avenir commercial et donc nous ne vendons pas de caméra. C'était évidemment un choix industriel et de ce choix a découlé en fait la personnalité cinématographique de Georges Méliès puisqu'il est reparti en Angleterre, il parlait très très bien anglais, il a rencontré un monsieur qui s'appelait Robert William Paul et il lui a dit est-ce que vous pourriez me fabriquer une caméra comme celle des frères Lumière et caméra projecteur, ce que Robert William Paul a fait, sauf que cette caméra était très primitive. Et un jour, alors que Méliès filmait la place de l'Opéra, la caméra se bloque. Elle se bloque au moment où un autobus est en train d'entrer, un autobus à chevaux évidemment, est en train d'entrer dans le champ. Alors le temps que Méliès débloque la caméra, la prise de vue reprend. Sauf qu'au moment où elle reprend, évidemment, l'autobus est passé. Et à la place, il y a, dit la légende, un corbillard. Et au moment de projeter la vue, Méliès se rend compte que devant l'opéra, un autobus, devant ses yeux ébahis, s'est transformé en corbillard. C'est un trucage aujourd'hui extrêmement simple, évidemment, mais à l'époque, c'est tout à fait... c'est presque inimaginable. Et Méliès va se dire, mais ça, je vais le faire dans tous les sens. Et donc, pendant toute sa carrière, il va faire des trucages simples, des trucages complexes, des trucages à mécanisme. Il va mélanger la magie des effets spéciaux, la magie des grandes revues, comme les revues du Châtelet, avec des costumes et des choses comme ça. Enfin bref, c'est le premier à faire un cinéma de fantaisie. On dit souvent que Rossellini est l'héritier des Lumières et que Fellini est l'héritier de Méliès. Hein, c'est à peu près le distinguo que l'on fait. Mmh. Donc Méliès va tourner des courts-métrages. À l'époque, les films sont très courts. Un programme de cinéma dure environ 40 minutes et c'est un drame de 5 minutes, un petit film tourné à l'autre bout du monde par des aventuriers pour 4-5 minutes. Une actualité, si tant est qu'on puisse appeler ça des actualités, en général, c'était plutôt des inaugurations de monuments aux morts ou de choses comme ça. Et puis, on terminait toujours par une fantaisie pâtée et un film à trucs de chez Georges Méliès et qui était vraiment le clou du spectacle. Alors, Méliès va faire des films de plus en plus longs, c'est quelqu'un de très ambitieux, et en 1902, c'est-à-dire 5 ans après l'invention du cinéma, 6 ans si on compte 1895, mais bon, oui. Il va tourner son grand film, film iconique, qui s'appelle Le Voyage dans la Lune, où il invente évidemment l'idée de voyager dans la Lune et de revenir sur Terre, reprenant ainsi Wells, reprenant ainsi Jules Verne,
oui,
etc.
C'est un savant mélange des deux, puisqu'ils partent sur la Lune en obus, mais ils trouvent sur place des sélénites.
Absolument. Ouais. Ils trouvent donc des sélénites qui sont les habitants de la Lune, et puis après, il suffit de sauter dans le vide et se retrouver sur Terre. Voilà. Donc c'est assez naïf, mais c'est assez formidable aussi. Et ce voyage dans la Lune va avoir un succès absolument fou. Au détail près, qu'il va être piraté, et du coup, Méliès ne va pas en tirer tous les marrons qu'il aurait pu en retirer. Le film va être piraté surtout aux États-Unis par Zygmunt Lubin, qui va prendre une copie, qui va la recopier à de très nombreux exemplaires et qui va littéralement couper l'herbe sous le pied de Georges Méliès avant que celui-ci ne puisse envoyer son matériel en Amérique. Et puis Méliès va continuer avec des films de plus en plus grands, Le Palais des Mille et Une Nuits, Le Voyage à travers l'Impossible, etc., etc. Le problème, c'est que Méliès n'a pas un outil de distribution très solide. Méliès, c'est lui qui peint les décors, qui fait les costumes, qui fait les histoires, qui réalise. Et du coup, il n'est pas équipé comme les grands studios qui commencent à naître, Éclair, Pathé, Gaumont. Déjà Pathé et Gaumont, c'est quand même incroyable.
Oui, il y en a une des deux qui a été créée avant le 28 décembre 95 d'ailleurs.
Oui, enfin Gaumont était un établissement de, ouais. de... Mais même Pathé existait avant. Hein, et Pathé faisait des disques et des systèmes de reproduction de sons. Et donc, quelque part, ces grandes sociétés vont prendre le pas. Le fait d'être structurées fait qu'elles vont littéralement... comment dire, éclipser Méliès, d'autant que Méliès ne se renouvelle pas, c'est normal, il n'est pas très jeune non plus, et il aime, il fait ce qu'il aime, donc quelque part, il continue imperturbablement, et le public, au bout de 10 ans, 12 ans, se lasse. Voilà. Et ces films qui étaient considérés comme merveilleux commencent à ressembler à des trucs vieillots, ah ouais, encore un Méliès, etc. Si bien qu'en 1910, Méliès va faire faillite, ce qui est tout à fait terrible. Il va aller voir Charles Pathé et il va lui dire, écoutez, voilà, j'ai besoin d'argent pour faire les 4 plus grands films de ma carrière et je peux vous dire que ces films-là, ils vont remplir vos caisses et les miennes. Et donc, aidez-moi, on fait une coproduction, etc. Pathé lui dit d'accord, à une condition, c'est que vous mettiez votre maison en gage. Si jamais ces films ne marchent pas, eh bien, je saisirai votre maison. Malheureusement, comme vous pouvez l'imaginer, les films n'ont pas marché, et du tout. En 1914, Pathé va faire saisir la maison, sauf que, évidemment, la guerre éclate. Il n'est plus question de continuer à faire du cinéma en France, ou très peu, puisque la plupart des acteurs et techniciens et industriels du cinéma partent au front. Et Méliès, un peu âgé, va utiliser ce théâtre, enfin sa maison, va la reconditionner en théâtre, puis en hôpital pour recueillir des soldats blessés. Et ce n'est qu'en 1923, alors que Méliès n'a pas tourné depuis 10 ans et ne tournera d'ailleurs plus jamais, que la maison est définitivement vendue à Lancan et que Méliès, dans un geste absolument tragique, va prendre les 520 négatifs de ses 520 films, toutes les copies qui sont encore sur les étagères, quelques décors, quelques costumes, il va mettre ça sur son gazon et il va allumer une allumette et brûler toute son œuvre. L'un des gestes les plus cataclysmiques et suicidaires de l'histoire du cinéma, incroyablement spectaculaire. On le voit d'ailleurs dans Hugo Cabret de Martin Scorsese, il reprend cette disparition tragique. Jamais nous ne verrons plus les films de Méliès qu'à partir des copies retrouvées à droite à gauche dans des salles de spectacle ou dans des salles de cinéma oubliées, en général des copies extrêmement abîmées, souvent incomplètes, souvent décomposées. Bref, Méliès devient le symbole du cinéma perdu sur laquelle, en 1936, Henri Langlois montra sa Cinémathèque française. Et d'ailleurs, Langlois rencontrera Méliès à plusieurs reprises et Méliès suivra la naissance de la Cinémathèque française de sa maison de retraite à Orly. Voilà.
Le cinéma d'avant les années 30, d'avant 1927-28, mais même certains après, est très largement disparu. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais il me semble qu'on parle de 80% de pertes.
Ça dépend des sociétés. Par exemple, les films Lumière ont été conservés sous le toit de la préfecture à Lyon. Donc, c'est Louis Lumière qui les y a mis. Donc, comme il y faisait pas trop chaud et pas trop froid, la quasi-totalité de ces films survivent. Par contre, il y a des films comme une société qui s'appelle Eclipse, à peu près dans les mêmes années, 2500 films, il doit y avoir une centaine de films qui survivent. On estime le taux de survie à entre 30 et 50%, ça dépend si on considère les films complets ou les films qui survivent partiellement. Voilà. Aux États-Unis, il y a une étude très très précise qui a été faite, et sur 100 films muets, il y en a 80 qui sont perdus, il y en a 10 qui existent encore dans leur état initial et il y en a 10 qui ne survivent que dans des copies dégradées ou des copies incomplètes. Vous voyez à quel point le cinéma est fragile. Je ne vous parle pas de pays comme l'Inde ou la Russie où alors là la quasi-totalité des films tournés avant 1950 ont pratiquement disparu.
C'est une véritable tragédie et ça c'est dû à plusieurs choses. Alors déjà la versatilité du produit lui-même de la pellicule de cette époque-là qui pouvait prendre feu et ne jamais s'éteindre même avec de l'eau, et puis aussi le fait probablement que les gens à l'époque, à part certains un peu visionnaires comme les frères Lumière, en fait le cinéma était un produit de consommation qui n'était pas censé véritablement à ses débuts en tout cas continuer, un peu comme les magazines les pulps.
Absolument, c'était bien l'idée. Quand vous achetez un journal aujourd'hui, vous ne le gardez pas en disant dans 150 ans, ce sera peut-être le dernier exemplaire du journal. C'était pareil avec le cinéma. On achetait une copie, on l'utilisait jusqu'à ce qu'elle soit usée jusqu'à la corde, ou alors on la retournait. Et pour éviter la piraterie, elle était détruite par son distributeur. Et puis, il y a eu des campagnes de recyclage. On cite souvent le fait que les films de Méliès auraient été recyclés pour faire des cols, des talonnettes de chaussures, des peignes. J'y crois pas trop, mais bon, des choses comme ça en tout cas. Et puis, quand le cinéma sonore arrive, on détruit les films muets. Et puis quand les films couleurs arrivent, on se désintéresse des films en noir et blanc, etc. etc. Et puis les mots de passe, donc quelque part, la profusion que l'on connaît aujourd'hui avec le streaming, avec le DVD, avec les salles de cinéma qui font des ressorties, n'existait pas à l'époque. C'était vraiment de la consommation au quotidien. Donc il était parfaitement naturel que Méliès, qui avait terminé de tourner avant la Première Guerre mondiale, ne soit même plus un souvenir après. Vous imaginez l'écran de fumée que peut faire une guerre mondiale sur... D'ailleurs, on appelle ça le cinéma primitif. Oui. Avant la Première Guerre mondiale, c'est le cinéma primitif, et Méliès n'a pas été au-delà.
Oui, 1912-13, son tout dernier.
Absolument.
C'est ça. Comme certains autres auteurs, ça avait l'air d'être un peu un passage obligé de par dépit, tout jeter à la scène ou tout brûler. Je pense à Max Linder, par exemple, aussi.
Max Linder, c'est un peu différent, c'est un peu différent parce que Max Linder, ses films étaient produits par Pathé. Oui. Donc, ils ont été conservés par Pathé. En fait, Maud Linder a souvent dit, sa fille, qu'elle avait restauré les films. La plupart du temps, elle n'avait fait que récupérer les négatifs qui étaient stockés chez Pathé. Par contre, sur les films américains de Max Linder, c'est vrai qu'il a tourné pendant 4-5 ans après la Première Guerre mondiale, et puis devant un drame terrible de sa vie, puisqu'il a tué son épouse et il s'est suicidé, ces films ne valaient plus rien. On ne regarde pas les films d'un assassin. C'est comme si Bertrand Cantat s'était suicidé. Vous voyez un peu le genre de truc. Clairement, Max Linder était passé du côté obscur du comique et plus personne ne voulait aller voir. Et du coup, ces films ont effectivement été totalement détruits. Plus personne ne voulait aller voir.
D'accord. Et pour revenir donc sur une péripétie aussi assez importante dans l'histoire de la revalorisation de Méliès, justement avec ces copies comme ça qui sont très difficiles à trouver, il y a cette fameuse trouvaille, ce trésor qui a été restauré et ressorti par Lobster il y a quelques années, qui est donc ce fameux film.
Oui, alors si vous voulez, à chercher des films dans les caves et dans les greniers, d'ailleurs si vos auditeurs savent où trouver des films ou connaissent des gens qui ont des films dans leur cave ou dans leur grenier, vraiment n'hésitez pas à appeler Radio Campus ou essayer de me trouver Serge Brombert, vous me trouverez sur internet, c'est assez facile. N'hésitez pas à nous appeler. Des bobines même très rouillées, abandonnées au fin fond d'une grange ou d'un truc comme ça, peuvent être le film perdu d'Alfred Hitchcock, de Jean Renoir, des Marx Brothers ou de Chaplin. Il y a un film perdu de Buster Keaton, il y a des films perdus de Walt Disney. Enfin bref, il y en a beaucoup, quoi. Et donc, appel au peuple. Voilà. Le truc, c'est qu'en 1993, une personne arrive devant la Cinémathèque de Barcelone et dit, est-ce que c'est ici que vous vous intéressez au film? J'ai dit oui. Écoutez, j'en ai dans le coffre, je vous les dépose. Il sort, il dépose les films, il dit, je vais me garer, et il s'en va et il réapparaît plus jamais. Okay. Donc on ne sait pas d'où viennent ces films. Il y en avait une centaine, et dans cette centaine de films, il y avait une copie malheureusement très très décomposée du Voyage dans la Lune de Georges Méliès, le fameux film que nous évoquions tout à l'heure, mais qui avait une particularité par rapport à toutes les autres, c'est qu'elle était coloriée au pinceau, un peu comme, vous savez, on coloriait les vieilles cartes postales. Eh bien, on coloriait aussi les copies de films. C'était très rare parce que ça prenait un temps dingue, ça prenait plusieurs mois pour colorier une copie. Et cette copie, on l'a restaurée. Ça a pris 12 ans à restaurer et elle a ouvert le Festival de Cannes en 2011 sur le thème. Regardez, c'est absolument incroyable. On retrouve encore des choses formidables. C'est l'un des grands moments dans la vie de Lobster. C'était de voir Méliès ouvrir le Festival de Cannes. Ça, franchement, ça a un peu de la gueule.
Je pense qu'il aurait été très content.
Je pense qu'il aurait été assez content, a priori, oui.
Avec une musique originale composée par le groupe R, donc en plus qui fait rentrer le film dans la modernité de son époque, quoi.
Oui, vous voyez, c'est ça nous, notre calcul. On n'est pas dans le... Il faut de l'authenticité historique, il faut des chercheurs, il faut des gardiens du temple. Mais quelque part, nous, on est dans l'instant présent, dans la découverte au présent des œuvres qui ont su rester modernes et merveilleuses. Et quelque part, l'idée de donner la musique musique de R avec un film de 1902 nous semblait ne pas être une trahison. Méliès n'avait pas fait de préconisation musicale, il avait juste écrit « Avec mes films, il faut jouer des airs à la mode ». Mais il n'avait pas dit s'il fallait que ce soit des airs à la mode de 1902 ou des airs à la mode du moment où on les joue. Et je pense que c'est plutôt la deuxième option qui s'impose. Donc du coup, R a fait cette musique et puis maintenant, on a perdu les droits de cette musique de manière un petit peu regrettable. Et aujourd'hui, c'est Jeff Mills, un autre qui a donné son paysage musical à ce paysage lunaire de Georges Méliès.
Et du coup, qui est disponible maintenant, Le Voyage dans la Lune, en format vidéo.
Le Voyage dans la Lune est disponible en DVD. On a même fait un documentaire qui s'appelle Le Voyage extraordinaire qui raconte cette restauration. Donc oui, il y a un DVD combo qui est sorti il y a quelques années. Le Voyage dans la Lune et Le Voyage extraordinaire. Mais Méliès, on peut le voir dans de nombreuses rétrospectives. On peut même visiter depuis quelques semaines le musée Georges Méliès à la Cinémathèque française. C'est à Bercy, 51 rue de Bercy. Et y a un musée maintenant permanent à Paris qui est un hommage à l'œuvre de Georges Méliès, ce qui est quand même assez incroyable. Et puis, on a sorti un Blu-ray DVD qui s'appelle Les Contes Merveilleux de Georges Méliès en couleur. C'était en fait tous les films coloriés de Georges Méliès avec une narration. Comme ça, on peut passer les films de Méliès aux enfants. Comme ça, c'est un peu comme un livre d'histoire. Et il y a même mieux que ça à faire, c'est qu'on peut passer les films de Méliès, couper la narration. Il y a le texte de la narration dans le Blu-ray et vous pouvez raconter vous-même le film qui est en train de se dérouler devant les yeux de vos enfants. Reconnaissez que comme voyage dans le temps, mais le voyage entre les générations, c'est quand même quelque chose. Faites le cadeau de Georges Méliès à vos enfants, ça vaut ça quand même.
Ça donne envie, effectivement. Ah ouais. Ouais. C'est assez chouette. Et puis, il y a également eu ce coffret de l'intégrale de ce qui avait été retrouvé.
Oui, en 2009, nous avons fait un coffret qui s'appelle Georges Méliès, le magicien du cinéma. C'est un coffret de 6 DVD. C'était à l'époque l'intégralité de ce qui avait été retrouvé. Évidemment, depuis, il y a 2-3 films qui ont été retrouvés en plus. Mais enfin, globalement, tout est là, avec évidemment les particularités techniques de l'époque. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les mêmes critères de restauration, on n'avait même pas les mêmes possibilités de restauration qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est un coffret qui est un tout petit peu daté en termes esthétiques, mais depuis, un par un, nous reprenons la restauration de chaque film et nous faisons ce qu'on appelle les restaurations 4K, ultra haute def et machin, truc, voilà, comme il faut. Et ça coûte très cher, très cher.
J'imagine, ça coûte très cher et ça prend du temps. Ouais. Parce qu'en plus, j'ai un souvenir ému d'avoir vu cette copie du Voyage dans la Lune en couleur.
Ou ce qu'il en reste, malheureusement, ouais. pour la scanner à l'époque avec des systèmes qui ne sont pas ceux qu'on a aujourd'hui, de toute façon elle cassait comme du verre, donc elle ne serait jamais passée dans les scanners modernes. Il a fallu qu'on la découpe en petits morceaux et qu'on filme fragment par fragment. Certains fragments étaient un huitième d'une image et il faut 13 000 images pour faire Le Voyage dans la Lune, donc vous imaginez un peu la folie. Quand je vous dis qu'on a mis 12 ans à restaurer le film, c'est pas de la coquetterie.
Mais pour l'avoir vu, du coup, ce qui restait de cette copie, effectivement, en fait, elle avait un peu l'aspect d'un Kuhnyaman. Elle avait l'air confit dans son propre nitrate d'argent. presque appétissant.
Alors, magnifique, en tout cas.
J'ai très, très ému.
Il n'y a pas grand chose de plus beau que cette copie-là.
Effectivement. Une dernière pause musicale avant de continuer et surtout de clôturer cette émission avec notre invité Serge Bromberg pour parler de Georges Méliès dans 100 ans de cinéma. Une page musicale et à tout de suite.
L'invité de 100 ans de cinéma et des poussières sur Prune 92 FM.
Et toujours donc de retour dans notre émission 100 ans de cinéma sur la radio, enregistrée à la Radio Campus Paris et également diffusée ici et puis également diffusée sur la Radio Prune à Nantes. Donc on est très content encore une fois d'accueillir dans notre émission Monsieur Serge Bromberg pour parler donc de l'œuvre et du cinéma, puis aussi de l'époque du grand cinéaste français Georges Méliès. Alors on a parlé d'un peu tout, on a parlé notamment du travail que vous faites, vous et Lobster Film, à savoir retrouver, restaurer et ressortir des très vieilles copies. Et puis, donc, des fois, on tombe sur visiblement des trésors. Et puis, des fois, on tombe aussi sur des trouvailles auxquelles Méliès n'aurait même pas pensé.
Ah oui, ça c'est. Oui, je vois très bien à quoi vous faites référence. Oui. En fait, c'est un truc incroyable. Georges Méliès était un magicien, donc sa spécialité c'était de disparaître et réapparaître. C'est quand même la base pour un magicien. Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, en 1923, Georges Méliès détruit la totalité de ses négatifs. On sait qu'il a tourné 520 films, on sait qu'il les avait tous à côté de lui, on sait qu'il les a tous brûlés, donc il n'en restait plus rien. Et c'était bien triste. Sauf qu'en 2007, nous sommes tombés aux États-Unis sur un fragment du Chaudron Infernal, et c'était le négatif original. Alors on s'est dit, tiens, mais comment est-il possible qu'un film brûlé en 1923 réapparaisse en 2007 ? Alors on a creusé cette piste, parce qu'évidemment il n'y a qu'un seul négatif original, hein, c'est celui qui passe dans la caméra et puis c'est tout. Et puis en creusant, on s'est rendu compte d'une petite anomalie, ou plutôt d'une petite bizarrerie que le temps avait littéralement oubliée. Figurez-vous qu'en 1902, comme je l'évoquais tout à l'heure, Le Voyage dans la Lune a été piraté par les Américains. Et Georges Méliès, qui était quand même un petit peu un homme d'affaires, s'est dit « mais enfin, il faut quand même que j'essaye de pas me faire piller de tous mes films un par un à mesure de leur sortie ». Et du coup, il a imaginé le dispositif suivant. Pourquoi ne pas sortir chaque film simultanément en Europe et aux États-Unis, ce qui coupera virtuellement l'herbe sous le pied de tous les pirates. Mais pour faire ça, il fallait évidemment avoir une boutique aux États-Unis. Il envoie son frère Gaston en Amérique, qui va monter la société G. Méliès, pas Georges, mais Gaston. Et Gaston va tirer à partir des États-Unis des copies qu'il va vendre aux États-Unis exclusivement. Mais pour tirer des films, il faut un négatif. Et aujourd'hui, on peut recopier des négatifs. On a les technologies pour ça. À l'époque, on est au tout début du XXe siècle. Évidemment, les défauts sont trop gros et sont insupportables. Donc, Méliès a une idée finalement assez logique, qui consiste à coupler deux caméras, les mettre côte à côte sur un même pied, et avec une seule et même manivelle, il va actionner deux mécanismes, deux films vierges qui vont défiler derrière deux objectifs distants d'à peu près 10 cm l'un de l'autre, si bien qu'à l'arrivée, il va avoir deux négatifs absolument identiques. L'un pourra partir aux États-Unis, l'autre pourra rester en France, et ainsi il pourra sortir deux films de la même qualité, que ce soit de part et d'autre de l'Atlantique. Et ça, il va le faire. Et évidemment, ce qu'on a retrouvé aux États-Unis, ce n'était pas les négatifs que Méliès avait brûlés en France, mais c'était ce qu'il restait, et il y a des péripéties très nombreuses concernant ces négatifs, mais c'était donc ce qu'il restait des négatifs américains qui sont passés par l'Académie des Oscars, qui ont été oubliés dans une cave, confinés à la librairie du Congrès, qui n'ont jamais été restaurés, etc., etc. Donc nous sommes en train, avec l'Académie des Oscars, avec la librairie du Congrès, avec le Centre National du Cinéma, avec le soutien amical de la Cinémathèque française, nous sommes en train d'essayer de restaurer chacun de ces films, ce qui est de ces négatifs américains, ce qui est absolument époustouflant. Et on s'en est aperçu presque par accident. Ce qui est absolument époustouflant, c'est qu'en fait, ces deux négatifs ne sont pas exactement identiques. Comme je vous l'ai dit, ils sont tournés à travers deux objectifs qui sont côte à côte, séparés d'à peu près 10 cm. Évidemment, on ne peut pas mettre deux pellicules derrière un même objectif. Si bien que les deux films n'ont pas la même parallaxe. Voilà. En gros, il y a presque un œil droit et un œil gauche. Et du coup, quand vous avez deux yeux, vous pouvez voir en relief. chose que ne font pas les Cyclopes, par exemple, ou que ne faisait pas le cinéma à l'époque, puisqu'il n'y avait qu'un seul objectif et un seul film. Nous avons donc, pour certains films dont des copies survivent en Europe pour le négatif européen, nous avons mis l'image européenne pour un œil, l'image américaine avec la parallaxe un tout petit peu différente pour l'autre, et à notre émerveillement absolu, nous nous sommes retrouvés devant le spectacle en relief stéréoscopique de ce que Méliès voyait dans son studio en 1903-1904 au moment où il tournait ses films. C'est absolument saisissant. Évidemment, ce n'est pas l'intention de Georges Méliès. Il n'avait jamais eu l'intention de faire du relief stéréoscopique et qui plus est, il n'en avait même pas les moyens techniques tant l'image était instable. Je dirais même plus, Méliès n'a pas eu l'idée de voir les deux film en même temps, il a eu une sorte de strabisme divergent puisque un œil est resté en Europe alors que l'autre œil est parti aux États-Unis. Il n'empêche qu'aujourd'hui, en réunissant ces deux choses-là, nous ne montrons pas les films tels que Méliès a voulu les tourner en relief stéréoscopique, mais là encore, nous vous proposons d'être dans le studio de Georges Méliès pour assister en relief, comme vous verriez avec vos propres yeux, pour assister au tournage d'un de ces films. Et là, c'est absolument extraordinaire. Du coup, à force de restauration de négatifs américains, on vient de terminer le premier qui est le Voyage à travers l'impossible de 1904, mais il y en a une vingtaine d'autres. Nous envisageons à très court terme de faire probablement des spectacles ou des choses comme ça sur Méliès en relief, ce qui à mon avis sera quelque chose de tout à fait époustouflant. On en a déjà essayé deux ou trois, des très courts, des films très courts, l'Oracle de Delphes, le Chaudron Infernal et la Cornue Infernale. C'est que des choses infernales. Oui. Mais il adorait l'enfer. Hein. C'était sa spécialité, c'était d'être, de se déguiser en diable. Et donc voilà, Méliès arrive en relief 120 ans après son premier film. Je crois que pour illustrer votre émission sur 100 ans de cinéma et des poussières et donc des cendres qui redeviennent des films, on ne pouvait pas rêver mieux.
Exactement. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir en voir et c'est absolument époustouflant. Puis en plus, on est vraiment face à de la 3D, l'image en impression de relief native, c'est-à-dire ce n'est pas augmenté.
Absolument. On n'invente rien. C'est tel que Méliès l'a enregistré. On ne fait qu'allouer à chaque œil l'objectif de la caméra qui lui correspond. C'est le principe du relief.
C'est tout à fait renversant. Il y en a beaucoup des histoires comme ça autour de Méliès, puis en plus avec votre travail, avec Lobster Film, des découvertes.
Et vous savez ce qu'on dit toujours sur les découvertes en matière de films perdus. Ma plus belle découverte, c'est la prochaine. C'est pour ça qu'il faut absolument que les auditeurs cherchent des films et essayent de me contacter s'ils en retrouvent. Toutes les pistes logiques qui mènent à des bobines isolées ont été suivies. Donc maintenant, le seul moyen de retrouver des films, c'est le petit bonheur, la chance, c'est d'essayer de se reposer sur des prescripteurs, sur des gens qui par hasard tomberaient sur une bobine en leur faisant confiance pour nous appeler et nous dire non seulement j'ai vu ça, mais prendre le numéro de téléphone de la personne qui l'a. Il suffit pas de dire ah, j'ai vu ça sur une brocante. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ben rien, je vous appelle. Ah oui, d'accord, et elle est où la brocante? Je sais plus. Et le monsieur, c'était qui? Ben je sais pas. Voilà, donc s'il vous plaît, faites un tout petit peu le boulot et franchement, vous pouvez sauver des films de Georges Méliès. Sur les 520 films qu'il a tournés, il en survit complet ou incomplet environ 220 aujourd'hui. C'est pas beaucoup, hein.
C'est pas beaucoup, mais c'est mieux.
C'est pas mal, c'est pas mal.
C'est mieux que rien.
Ouais, ouais.
C'est mieux que s'il avait vraiment réussi à tout brûler.
Absolument.
Et on en est déjà assez ravis. Il y avait une autre actualité aussi. En début d'année 2020, vous avez donc sorti un documentaire sur Méliès.
Oui, absolument. Je crois qu'il est encore disponible sur Arte+. Ça s'appelle Le Mystère Méliès et ça raconte l'histoire de ses négatifs. Voilà. Mais ça la raconte par le menu, avec ce qu'ils sont devenus. C'est absolument inimaginable. Ces négatifs, qui sont finalement que des bobines de films, ont eu une vie d'aventure qui est vraiment digne d'un thriller. Ouais. Donc le documentaire Le Mystère Méliès se regarde comme un truc, vraiment comme un film d'aventure.
D'autant qu'on retourne un petit peu à Indiana Jones, avec les lieux de stockage par exemple de ces bobines de cette époque-là, qui sont quasiment dans des coffres-forts finalement.
Ah bah, Oui, en fait, ces films ont été stockés d'abord dans des granges, après dans des caves, après dans des archives officielles. Je parlais de l'Académie des Oscars à l'époque. Bon, enfin, en gros, c'était un hangar et on n'avait aucune précaution. Enfin, y a l'histoire des archives du film est quelque chose qui gagnerait à être connu. Aujourd'hui, les films sont évidemment conservés dans des endroits très sécurisés, très climatisés, avec une hygrométrie constante, parce que malheureusement, la pellicule se décompose, donc il faut essayer de ralentir ce mouvement le plus possible. Mais fondamentalement, là aussi, il y a une histoire. Quand Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque française, retrouvait des films de Méliès ou de Marcel Lhermier, il les conservait dans sa baignoire. Donc, c'est vous dire à quel point ça a un tout petit peu évolué, quoi.
Oui, heureusement. Dans sa baignoire, à sec.
Oui. Sans eau. Sec, oui. Il les mettait pas dans l'eau, mais du coup, lui, il ne prenait jamais de bain. Ce qui est un petit peu gênant aussi, pour d'autres raisons.
Henri Langlois qui est, si je dis pas de bêtises, la seule personne à avoir gagné un Oscar sans avoir fait de film.
Je crois que maintenant il y a d'autres gens qui reçoivent des Oscars pour l'ensemble de leur carrière, et notamment Kevin Brownlow qui est le restaurateur du Napoléon d'Abel Gance et de bien d'autres films. Voilà, il y a ça un petit peu maintenant, mais effectivement Langlois a eu, je crois que c'était le premier Oscar d'honneur si je ne me trompe.
Bah oui, pour son travail de cinéphile.
Pas mal.
Ce qui est pas mal puisqu'il était l'un des premiers cinéphiles. Donc ce film documentaire dont on parlait, il s'appelle Le Mystère Méliès. Et il est donc il a été diffusé pour la première fois en janvier 2021 sur Arte. Il y est peut-être encore.
Je crois qu'il est encore sur leur plateforme cinéma.
Et c'était absolument intéressant. Et puis voilà, on comprend en fait que Méliès est décédé depuis pas mal d'années.
1938.
Donc ses films sont donc tombés dans le domaine public 70 ans après son décès.
Ouais.
Donc c'est quelqu'un voilà qui vient véritablement d'une autre époque, mais qui est vous l'avez compris fondamentalement toujours redécouvert ou à redécouvrir et toujours moderne aussi avec des groupes comme R qui peuvent s'en emparer
et plein d'autres. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sans être des groupes connus s'emparent de ces films et de leur musique. Il faut faire attention à la notion de domaine public parce que c'est une notion très compliquée. En réalité, la plupart des films de Georges Méliès sont contrôlés par les archives qui les ont restaurés, même si les droits incorporels du film, eux, sont tombés dans le domaine public. Donc c'est un petit peu compliqué. Bon, enfin, c'est pas très compliqué de se procurer des films de Georges Méliès.
Aujourd'hui
surtout.
Parce que c'est ça. Quand un film tombe dans le domaine public, c'est sa propriété intellectuelle qui est dans le domaine public.
Exactement.
Mais pas forcément, pas du tout, même la copie que vous allez trouver.
Pas du tout. L'exemple, c'est que pour faire le coffret que j'évoquais tout à l'heure de 2009 sur l'intégralité des films de Georges Méliès, il a fallu qu'on passe des conventions extrêmement serrées avec chacune des cinémathèques qui les avaient conservées. Avec quelques-uns qui venaient de chez nous, mais voilà. Et donc, à chaque fois, c'est des utilisations très limitées. Il faut faire très attention. C'est formidable. Mais il n'y a pas que Georges Méliès. Vous savez, je profite des dernières minutes de notre entrevue pour parler du projet qui nous tient à cœur depuis 15 ans et qui est en train de prendre corps pour ces fêtes de fin d'année. Nous sortons quelque chose d'éblouissant. Enfin, c'est vraiment le fruit de 15 ans de boulot. Je ne rêve que de ça depuis 15 ans et de Méliès, évidemment. C'est un coffret autour de Julien Duvivier, le réalisateur de Pépé le Moko, de La Bandera, de Voici venu le temps des assassins, Panique et même Don Camillo. Figurez-vous que Julien Duvivier a fait une petite quinzaine de films muets. Certains d'entre eux avaient disparu. Et nous sortons un coffret Blu-ray DVD, ce qu'on appelle un combo aujourd'hui, vous le savez, qui regroupe 9 films muets de Julien Duvivier. 2 qui étaient visibles jusqu'à maintenant, Poil de carotte et Au bonheur des dames, qui sont des films dans des nouvelles restaurations, pas les restaurations connues jusqu'à ce jour. Et pour les 7 autres films, ce sont des nouvelles restaurations de films qui sont absolument invisibles depuis cette fois un siècle. Et franchement, ça fait 15 ans qu'on se déperlèche, qu'on est émerveillé par ce qu'on découvre dans ces films. C'est l'un des plus grands réalisateurs du cinéma français dans ses premiers pas. Mais comme on le dit couramment, hein, la musique de Mozart quand il avait 6 ans, c'était déjà du Mozart. Duvivier, même les yeux bandés, les mains dans le dos, quand il faisait un film, c'était un film de Duvivier et c'est extraordinaire. Donc voilà, ça s'appelle Julien Duvivier, 9 films muets et franchement, c'est le premier chef-d'œuvre, je crois. Mais je vous le conseille, c'est un voyage dans le cinéma. On voit comment est né le cinéma moderne.
Eh bien, moi, je suis convaincu, déjà, c'est évident. En plus, en cette période de fête qui approche très bientôt, ce coffret sera disponible très prochainement. C'est donc l'occasion de découvrir ce très grand réalisateur, si vous n'avez vu que ces films parlants, ce qui est très probablement le cas. Merci beaucoup, Serge Bromberg, d'être venu aujourd'hui donc, pour participer à 100 ans de cinéma, pour parler de Georges Méliès et aussi de votre travail avec Lobster Film et vos collaborateurs.
Merci,
et collaboratrices.
Alexis, c'est toujours un plaisir de partager son enthousiasme et j'espère avoir été contagieux.
Ah en tout cas, si je fais cette émission, c'est un peu grâce à vous, à la base, comme je le disais en début d'émission. Donc oui, votre passion est contagieuse et donc, s'il vous plaît, continuez de faire ce que vous faites aussi bien.
Merci beaucoup.
Et donc à une prochaine fois pour plus d'infos sur le cinéma. Depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. 100 ans de cinéma, ça touche à sa fin. On se retrouve le mois prochain, bien entendu, avec un ou une autre invitée qui nous parlera donc de cinéma, encore une fois, de tout le cinéma.
Et trouvez-nous des films, trouvez-nous des vieilles bobines. On compte sur vous.
Lobster Film, Serge Bromberg. Allez chercher sur Internet, vous trouverez les contacts. Merci et bonne fin de journée. Allez, au revoir.
Cent ans de cinéma et des poussières touche à sa fin. Mais pas de panique. Rendez-vous le mois prochain pour encore plus de cinéma.